Bonjour Renaud Dourge, en votre compagnie. Je suis aujourd'hui avec, dans ce studio, Valérie Valex. Valérie Valex, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce n'est pas la première fois que je vous invite. Nous avons déjà parlé de certains de vos romans ici même. Et aujourd'hui, alors nous allons parler d'un roman qui s'appelle « Ce que Blanche n'avait pas dit », c'est paru au Palémon. Habituellement, on vous reçoit pour des romans, il y a toujours un côté policier. Alors il y a la série du Capitaine Sabre, c'est roman historique mais policier en même temps.
Oui.
Il y a les séries qui se passent avec les ruches.
Également policière.
Également policière. Et aujourd'hui, on n'est pas dans un roman policier.
On n'est pas dans un roman policier.
Il y a quand même un côté un peu mystère, parce qu'il va y avoir des secrets, mais beaucoup plutôt des secrets de famille, dirais-je.
J'ai quand même voulu montrer le côté un peu noir des années 20, qui est très souvent perçu comme Gatsby, avec les belles tenues, avec les soirées ultra chic. Ça concernait pas beaucoup de monde dans la population, peut-être 5%, pas plus. Il ne faut pas oublier qu'on se relève de la guerre quand même, il y a du travail.
Alors nous allons en parler justement, c'est assez important. Et il y a... Alors commençons par dire que cela se passe à Lamballe. Ce n'est pas un hasard si ça se passe dans cette ville.
Ce n'est pas un hasard parce que j'avais été en salon à Lamballe il y a déjà quelques années, 3 ans il me semble. La ville est très ancienne. On m'avait dit que c'était la plus ancienne ville de Bretagne, daterait de l'an 1000, ce qui est quand même pas rien. Il y a pas mal de remparts, des jolies choses. On pouvait vraiment. Il y a la maison dite du bourreau, qui est le bourreau en fait, hein, du berceau, mais bon, évidemment, ça faisait plus touristique, le bourreau, qui date du XVIIe siècle. Enfin, voilà, il y a des très vieilles maisons, on pouvait faire quelque chose.
Vous avez évoqué rapidement la guerre de 14, et nous remarquons qu'il y a quand même ces différences sociales. Alors, nous allons parler des personnages, mais il y a quelque chose qui unit certains personnages. Qu'ils soient, dirons-nous, du peuple ou de l'aristocratie, ce sont des gens qui ont connu les tranchées.
Ce sont des gens qui ont connu les tranchées. Les tranchées, comme très souvent, quand on est en guerre, ça permet quand même de rapprocher, entre guillemets, un peu. Alors, on ne parle pas des grands chefs, des généraux qui étaient restés à Paris sous les lambris dorés et qui faisaient avancer ou reculer les bataillons, avec tout le drame que ça supposait.
Bien sûr, quand on en voit certains.
On parle bien de ceux qui étaient les pieds dans la boue et les mains dans le sang. Donc ceux-là, oui, ils avaient un rapprochement.
Nous avons d'un côté un épicier qui a fait fortune, d'ailleurs, qui a très bien mené sa barque.
Qui a très bien mené sa barque, parce qu'il était à Paris, bon, puis il revient au pays.
Et de l'autre côté, alors c'est le noble qui, lui, est désargenté. Curieusement, c'est l'inverse. Comme beaucoup de meubles, enfin de nobles. En fin de compte, quand on relit le capitaine Fracasse, à l'origine, Cigogna, qui est effectivement un marquis, mais il est totalement fauché.
Alors, il y a toujours eu des nobles fauchés. Hein. Louis XIV l'a bien voulu, ils ont venu à Versailles. Mais surtout là, quand on contourne le début du XXe siècle, on arrive quand même, on va pas dire sur des... C'est une fin de quelque chose quand même qui est là. Et les familles vont se tourner notamment vers les Américains. Les femmes américaines, parfois issues de grandes fortunes, hein, ont très envie d'avoir ce petit quelque chose qui manque à leur bonheur, à savoir une particule.
Bien sûr. Et il y a même des roturiers en France qui voulaient bien que leur fille se cherchait volontiers à se marier avec un noble. Mais là, par contre, bon, alors il y a cette jeune fille qui est... On était amoureux, et c'est réciproque à l'origine, avec Flavien de Sévignac.
Oui.
Mais la mère d'un côté, Blanche, la noble, et le père qui est épicier, la mère, on saura pourquoi, mais on ne va pas trop le dire, bien évidemment.
Non.
Mais le père, lui, bon, dit, en fin de compte, qui est épicier, ça ne l'intéresse pas que sa fille devienne noble.
Eh bien non, parce que... il a les pieds sur terre et il se rend bien compte que... elle va devoir accéder à des choses qu'elle n'a pas acquises, hein. Des façons de se tenir, des façons de faire. Il la sait qu'elle est un peu rebelle quand même, qu'elle ne se laisse pas faire. Il voit bien que ça va faire de la casse, où elle va aller. Et puis, il aimerait surtout quelqu'un qui puisse tenir sa boutique à lui. Il voudrait perpétrer. Il ne peut pas pouvoir avec Flavien.
Alors elle, Juliette, va quand même se marier avec Flavien, s'installer au château. On ne peut pas dire qu'avec la belle-mère, ça va bien se passer. Le beau-père, lui, très charmant.
Le beau-père, il a fait les tranchées, lui.
Il a fait les tranchées, même c'est un homme, bon.
Oui.
Alors, qui a le même défaut que son fils a le même défaut que lui, coureur de jupons, par contre, non.
Coureur de jupons, alors Flavien n'est pas coureur de jupons dès le départ. Hein. C'est après que ça lui vient. Il pense même, d'ailleurs, qu'il ne va pas ressembler à son père. Mais la vie fait que. on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et puis Ferdinand, c'est quelqu'un, d'abord, qui est un bon vivant, de départ, qui aime qui serait contenté de peu de choses d'ailleurs, enfin, peu de choses selon Ferdinand, hein, c'est-à-dire un petit château, trois fois rien, quoi.
Quelques domestiques tout de même.
Quelques domestiques, voilà. Mais voilà, il ne va pas non plus fréquenter les hauts salons, il ne va pas, voilà, il va pas avec ses pairs forcément, ça ne le dérange pas de fréquenter le docteur, tout va très bien, pourvu qu'il y ait un petit coup à boire.
Et on voit aussi l'importance, alors encore dans ces années 20, on est bien sûr, bon, là, c'est la période dite des années folles, mais il y a encore une chose très importante, c'est le poids des traditions.
Alors oui, alors...
ça, c'est un des éléments aussi très importants dans votre ouvrage.
Bah, justement, les années folles, alors, nous, on le perçoit comme ça, mais ce n'est pas un terme qui va leur venir tout de suite.
Non.
Eux, ils se rendent bien compte que les choses vont beaucoup plus vite qu'avant-guerre, que ça change énormément. Mais pour autant, ils ne s'attribuent pas ce titre qu'on leur donnera plus tard.
C'est comme on a dit, la belle époque, elle était loin d'être belle pour tout le monde.
Il y a toujours un revers. Hein. Et puis, donc, il y a ce couple qui est plus ou moins projeté. Alors, il y a le poids des traditions, et d'ailleurs, le poids des traditions n'est pas le même en fonction des régions. En Bretagne, il est beaucoup plus important par la présence de la religion.
Bien sûr.
Moi qui suis originaire, par contre, d'Auvergne, je me suis inspiré énormément de mes tantes, hein, qui avaient 20 ans, 25, et qui m'ont bien expliqué que Clermont-Ferrand, on s'en foutait un peu, hein, des traditions. Et puis, d'ailleurs... Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que la Bretagne est très ouverte, puisqu'il y a des échanges avec la mer, Passati Patala, alors que pour aller à Clermont-Ferrand, on a envie d'y aller, quoi, hein, c'est enclavé. Donc,
Mais Juliette, elle a, c'est vraiment la provinciale, et d'ailleurs, à un certain moment, bien après, elle va se rendre à Bordeaux, où c'est, elle va découvrir une vie totalement différente de celle qu'elle connaît en Bretagne.
Ah, ben totalement, et puis... alors au début elle est séduite comme évidemment comme une gamine quand on l'emmènerait en Amérique et puis avec le temps bah, elle a envie de retrouver les choses quand même plus simples ça tout le temps, quand on n'est pas habitué on peut dire ce qu'on veut, on aime quand même la tranquillité qu'on a connue.
L'importance pour la famille de son mari aussi c'est au moins qu'il y ait un fils parce que c'est pareil, la transmission du nom c'est très important.
Très important.
Et ça, il faut mieux avoir un garçon qu'une fille.
Ah, ça va le rester très très longtemps. Je me souviens d'être allé en vacances dans le Périgord où le noble local avait emmené sa femme en Amérique pour sélectionner l'embryon masculin. Et c'était il y a 10 ans. Hein, donc,
oui, c'est pas des...
Alors imaginez les années 20.
Mais elle va quand même avoir un enfant, mais malheureusement, bon, il va y avoir séparation du couple.
Séparation
du couple. On ne va pas donner de
pour
détails.
Pour quelle raison ? Parce que c'est le but. Voilà.
C'est essentiel dans le roman, c'est pour ça qu'il ne faut pas le dire aujourd'hui,
voilà,
bien évidemment.
Aujourd'hui. Donc il y a séparation et elle est vraiment obligatoire. Néanmoins, il y a aussi un sujet que j'ai voulu amener sur c'est que Flavien est très beau et que est-ce que la beauté masculine sert ou dessert ? Et parce que pour les femmes, en général, on dit qu'elle sert. Et pour les hommes, est-ce qu'elle sert ?
Il peut intéresser aussi des dames qui sont intéressées surtout par l'argent. Ou...
Alors
que même s'il n'en a pas vraiment beaucoup.
Alors on va dire que pour l'époque, en fait, la plupart des patrons, les grands patrons, ce sont des hommes, pas des femmes. Hein. Par contre, il va y avoir des maîtresses fortunées, ça il peut en avoir, ça n'y a pas de problème. Il en aura d'ailleurs. Ce qu'on appellera le baron Satan, ce qui va justement coquifier, voire même les gros bonnets, enfin, etc. Mais voilà, je ne pense pas, à part pour faire peut-être mannequin, je ne pense pas que ça ait un avantage particulier d'être beau à l'époque. Aujourd'hui, oui.
Oui, bien évidemment. Et on est, comme on a dit, au virage d'une forme de vie. Avant, les nobles ne travaillaient pas. Lui, bon, bah, il va falloir qu'il s'investisse dans un métier.
Ah oui.
Il va se retrouver notaire.
Notaire.
Ce qui est quand même un métier où, en principe, on gagne bien sa vie.
Bah, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il ait eu envie de faire, notamment. Il hésite. Enfin, j'ai hésité pas mal entre la magistrature, des choses comme ça, parce qu'il fallait quand même un métier qui soit haut de gamme. Il n'allait pas faire balayeur, forcément, ou garçon de café. voilà, et puis son père...
Parce que notaire, c'est souvent de père en fils dans ce métier. Assez
oui,
souvent.
C'est père en fils, mais il y a des exceptions également qu'on pouvait s'appuyer dessus. J'avais cherché quand même, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Et puis, lui, il voyait bien également transmettre à la fois le château et le notariat, quoi. Ça serait bien.
Je voudrais que nous revenions un petit peu à Lamballe, parce que vous faites aussi des descriptions, c'est la richesse architecturale de cette
oui.
ville.
Elle est très, très importante. Parce qu'ils n'ont pas été trop abîmés, notamment par la guerre, pas la première évidemment, parce qu'elle n'est pas rentrée aussi loin, mais la deuxième notamment.
Par rapport à des côtes.
Moi qui suis en Normandie,
oui.
Toute la côte, hélas. Hein. Voilà, et même Rouen, je ne suis pas très très loin. C'est beau, mais c'était très abîmé. Ils ont d'ailleurs laissé volontairement des impacts de balles pour qu'on se rende compte. Bon, l'emballe, ça n'a pas été ce cas-là. Donc, ils ont pu conserver leur patrimoine, qu'ils aiment d'ailleurs, parce qu'il y a un monsieur très intéressant qui s'appelle Serge Andrieux, que je remercie s'il m'écoute peut-être, qui m'a beaucoup aidé, puisqu'il a, il a pu avoir des tas de photos de l'emballe du fin 19e, début 20e, et qu'il a publié sous forme de livre, qui s'appelle L'emballe haute faille, autrefois. Donc, vraiment, là, on peut s'appuyer énormément dessus, énormément. C'est très intéressant. Même quand on n'est pas l'emballé, c'est très intéressant. Si on aime le patrimoine, et moi je l'aime beaucoup, je l'ai aimé quand j'étais dans le Périgord, je l'ai aimé quand j'étais en Alsace, dans le Nord aussi, très intéressant. Merci. Très beau patrimoine partout. Hein.
Vous avez donc, vous êtes allé à l'emballe, mais vous, pour ce livre, vous avez fait, je présume aussi, des recherches, parce qu'il y a une chose très importante pour cette époque, ce sont les évolutions musicales. Vous avez dû faire des recherches sur les courants musicaux de l'époque. C'est le début du jazz. D'ailleurs, nous finirons cette émission en écoutant un morceau de jazz. Mais...
Ah, c'est pas le plus compliqué, le jazz. On peut trouver assez facilement des beaux morceaux. Maintenant, avec YouTube, on peut trouver énormément, avec les danses qui vont changer aussi. Hein. La mode qui change aussi, c'est important de le dire.
C'est ce que j'allais dire, les jupes se raccourcissent considérablement par rapport à autrefois.
Considérablement, mais on a également une idée erronée des années 20 où on voit la ceinture de banane de Joséphine Baker et la jupe qui est au-dessus du genou. Non, jamais, hein, toujours en dessous du genou. Et dans certaines régions, notamment la Bretagne, j'ai quand même bien fait attention à ça, elles avaient du mal à remonter déjà à mi-mollet. Autant, donc, comme je vous l'ai dit, je me suis servi de mes tantes qui étaient à Clermont. J'ai des photos d'elles à l'époque où la robe, elle est en dessous le genou, sans manches, très décolletée, les coiffures à cran et tout. Là, il n'y avait pas beaucoup. Et il y avait quand même en plus la coiffe, il fallait en tenir compte. Il y avait la grande coiffe et puis il y avait le dallet qui était la petite coiffe. Et puis il y avait parmi, ça c'était Serge qui me l'avait dit, Andrieux, il y en avait un qui était au restaurant et qui avait amené sa femme de Paris, qui était habillée à la parisienne. Et alors les messieurs étaient vraiment en admiration. Non, pas shocking, en admiration.
Mais les dames peut-être choquées.
Oui, les dames, oui.
Parce que pareil, la coiffe bretonne, suivant les communes, c'est pas forcément la même.
C'est pas du tout la même. Comme le costume, d'ailleurs breton, le costume breton, les broderies, etc., c'était pas du tout la même chose.
Nous allons laisser passer un communiqué, si vous le permettez. Oui.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie de Valérie Valex pour Ce que Blanche n'avait pas dit, paru aux éditions du Palémon. Lorsqu'on vit avec des personnages en les créant pendant un certain temps, est-ce qu'on ne s'identifie pas à l'un d'entre eux? Enfin, là, c'est pour les dames, par exemple. Il y a Blanche, bon, qui n'est pas très, très sympathique, mais on pourra comprendre à un moment quand même son attitude, ou la jeune Juliette. Et il y a aussi une autre fille qui est beaucoup plus délurée, par exemple. On va pas...
Oui, c'est Émilie. Oui. Voilà. Émilie...
Elle ne représente vraiment pas la bretonne traditionnelle de cette époque.
Mais pas pour rien non plus. Hein, non, quand on lit, il lui est arrivé des traumatismes. D'ailleurs, elle va être obligée de partir. Hein. Elle ne pourra pas rester là. Même avec ce qui a pu lui arriver, d'abord, les gens ne le croiraient pas. Et puis, ils n'accepteraient pas non plus. Blanche, c'est encore autre chose. Blanche, c'est l'ancienne noblesse. Elle a été vraiment élevée dans les traditions. Elle comptait beaucoup sur Flavien pour relever le flambeau. Et elle voit que c'est pas sûr du tout. Alors, elle a d'autres enfants. Mais l'aîné est quand même beaucoup plus mis en avant que les autres, quoi qu'on veuille. Hein.
Mais est-ce que, comme je vous le disais, on n'a pas l'impression de s'identifier, on n'essaye pas de se mettre un peu de soi dans un personnage?
Pas forcément. J'ai mis de mes tantes, puisque c'est elle qui m'avait expliqué, plutôt elle. Par contre, ce qu'on a, c'est que quand on écrit un livre, d'abord ça prend du temps, et on vit énormément avec le même personnage pendant plusieurs mois. Alors quand c'est l'apicultrice, puisque moi je suis... C'est plus rapidement ce qu'il faut faire, donc ça c'est plus court, c'est entre 7 mois à peu près, 6-7 mois. Avec un historique, c'est beaucoup plus long, hein, c'est 9, 10, 11, 12 mois, donc on passe plus de temps avec eux et ils font partie de la famille. Je vais pas dire qu'ils sont à table avec nous, mais presque. Et oui, ça compte parce qu'on est là, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que je vais lui faire dire. Et par exemple, pour les rôles masculins, c'est mon mari qui s'y colle, pour la plupart, parce que je n'ai pas... Qu'est-ce que tu aurais dit là dans cette situation? Alors elle me dit, j'en ai qu'à l'époque.
Alors nous allons un petit peu laisser Blanche, Juliette et les autres de côté pour parler un petit peu du reste de votre œuvre.
Oui.
Là, vous venez de faire une allusion à l'apicultrice. Ça, oui. C'est... L'apiculture, pour vous, c'est quelque chose de très important.
C'est très important, parce que là, c'est le père de mes tantes qui était apiculteur en Auvergne. Et donc, c'est comme ça que je m'y suis référé au départ. J'essaye de faire de la défense, notamment pour l'abeille, mais c'est compliqué, parce que les gens se disent que y aura bien autre chose à la place.
Mais là, on parle quand même beaucoup avec la pollution du risque de disparition, quasi-disparition d'abeilles.
Ah oui, mais j'ai mes fidèles qui, eux, savent que j'ai de l'engagement et qu'il faut avoir de l'engagement. Mais la plupart que je peux en échanger avec en salon, c'est oui, on n'y peut rien. On fera autre chose, on mangera autre chose. On importera du miel d'ailleurs. Bah oui, mais pour importer d'ailleurs, il faut que cela. Par contre, il faut qu'ils préservent leur colonie à eux.
Et il y a une légende d'ailleurs, je crois que c'est une légende cette phrase que Einstein aurait dit que le jour où il y aura la dernière abeille, ça sera la fin du monde. Mais je crois qu'en fin de compte, on a découvert, c'est pas lui qui l'avait jamais dit cela.
Oui, alors on lui a attribué, laissons lui là, après tout.
On est toujours corrige.
Oui, on la lui laisse, puisqu'on n'a pas de toute façon l'autre auteur. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais enfin, il voyait ça quand même depuis un sacré bout de temps, lui. Hein. Du moins, elle perdure depuis un petit bout de temps, au moins 40, 50 ans facile.
Et les abeilles nous amènent à une autre de vos passions, c'est Napoléon, puisque le symbole de Napoléon, c'était pas... Enfin, il y avait l'aigle, mais il y avait l'abeille. Pourquoi avait-il d'ailleurs... Est-ce qu'on sait pourquoi il avait pris l'abeille?
Parce que c'est... Alors d'abord, il ne voulait pas reprendre l'hélice, hein, évidemment. Et puis, il trouvait que c'était un insecte travailleur. Et donc lui, à part faire les campagnes, quand on était à la maison, à dire, en France, il fallait quand même relever le pays, d'abord de la Révolution, il fallait bien... Et puis, il fallait également, si on voulait... Il n'y avait pas d'assistance, hein, aucune. Hein, donc, il n'y avait pas de RSA ou autre. Il fallait bien travailler. Donc, il a pris ce symbole, d'ailleurs, il me semble que pour le sacre, le manteau du sacre est constellé d'abeilles travailleuses. D'ailleurs, il donnait une pièce d'or pour entretenir les abeilles, puisqu'à ce moment-là, on détruisait la colonie en fin de saison.
Ah.
Ouais. Et pourtant, on va dire dès 1819 que ça commence à plus aller, qu'on ne peut plus trouver des essaims aussi facilement.
C'est pas tout jeune donc là.
Non, c'est pas tout jeune, mais qu'on n'écoute rien non plus, on n'est pas tout jeune.
Alors, parlions de Napoléon, il y a donc cet autre personnage dont nous n'avons pas parlé, qui est ce demi-solde que vous avez créé, qui est le capitaine Sabre.
Jérôme Blin, oui, exactement.
Il y a longtemps que vous n'avez pas sorti une nouvelle aventure
Eh bien non, parce que d'abord j'étais occupé avec d'autres écritures, et puis mon éditrice tient à ce qu'il aille en Bretagne également. Donc, s'il y a une prochaine fois, il y en aura une, parce que je vais le faire, évidemment, mais mes lecteurs attendent, ça sera à Brest. Très intéressant aussi, comme ville. Très intéressante. Le bagne, enfin, etc.
Oui.
Et puis, il y a aussi que je suis comme Balzac, j'aime bien faire voyager mes personnages. Donc, on pourra le retrouver dans des prochaines écritures, où il ne sera pas le héros, mais il apparaîtra.
Pourquoi pas l'envoyer à Sainte-Hélène
Pourquoi pas
Ça pourrait être... Valérie Valec, je suis très content de vous avoir reçu. Je voudrais quand même savoir, vos lecteurs, je pense que depuis que vous avez fait quelques salons, depuis la sortie de cet ouvrage,
oui.
Vous avez des lecteurs qui l'ont. Est-ce qu'il y en a qui vous écrivent?
Oui, quelques-uns.
Parce que quelques-uns. Ça se perd un petit peu, ça se fait encore un peu.
Ça fait encore. J'ai au moins deux qui m'envoient régulièrement des courriers pour les vœux, pour la Pâque, des choses comme ça. Puis j'ai du contact mail maintenant, beaucoup le courriel. Hein. Ça, c'est sûr que... On écrit de moins en moins. Et puis,
Également sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux. Je suis conférencière, donc je peux toucher également un autre public, notamment aux amis d'Annette, où je vais beaucoup faire des conférences en costume.
Oui, alors je vous ai vu sur Facebook, on peut dire.
Oui.
Je vous ai vu en costume.
Premier Empire. Là, je vais faire la conférence sur le crime des années 20 en novembre, et donc je serai en année 20.
Ah.
Et les gens sont beaucoup plus attentifs quand on est en costume que quand on est en civil.
Ah, c'est amusant cela.
Oui, parce qu'ils sont fixés sur le costume et du coup...
J'aurais pas imaginé par exemple Jean Tullard habillé en maréchal d'Empire.
Oh, ne l'aurais peut-être pas dit.
Bah, non, lui, mais... il a l'humour pour.
Il a l'humour, il a l'humour. Puis, il a la classe aussi.
Là, hein. Il a la classe. J'ai eu la chance de le rencontrer ici même, d'ailleurs, et de le rencontrer dans un salon où nous étions l'un et l'autre membres du même jury littéraire.
Ah bon,
d'un prix qui n'existe plus, le prix Jules Michelet, mais
ah bon,
disparu depuis bien des années.
Oh, dommage.
Ben, nous allons arriver pratiquement à la fin de cette émission. Il nous reste 2 minutes. Vous avez peut-être déjà un autre ouvrage en préparation ?
J'ai un autre ouvrage en préparation qui va s'appeler Plume de costume. Et donc, il va faire.
Roman ou un ouvrage ?
Non, c'est un recueil de nouvelles historiques.
Ah, ça, moi, je suis un chaud partisan vraiment du style nouvelle. Ça a été assez perdu à une époque et ça revient, heureusement.
Ça revient.
Il y a des auteurs qui.
Ça revient. Donc, avec 4 auteurs. Chevronné, j'aime pas tellement le mot parce que bon, chacun a son style. Mais également des reconstitueurs, puisque certains ont une très belle plume. J'avais pu voir ça dans des ateliers d'écriture. Et donc, je leur ai donné la parole. Voilà, et donc une époque différente à chaque fois. On commence sous l'Antiquité et on finira en 1944. Et moi, je ferai la Russie impériale.
Ah, on reste toujours avec l'Empire.
Toujours.
Valérie Lavalec, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, nous terminerons l'émission là dans quelques secondes. J'ai choisi un morceau de jazz de l'année 1923, puisque votre roman débute en 1923.
C'est l'année de naissance de ma grand-mère, c'est pour ça que je l'ai fait.
En plus.
Voilà.
Et donc, c'est un morceau de Kid Olivier, qui était un musicien très célèbre aux États-Unis à l'époque. Heureusement que grâce à la magie des enregistrements, on a toujours les originaux.
Oui.
Et nous allons terminer avec cela. Je rappelle ce titre, « Ce que Blanche n'avait pas dit », et Blanche est un personnage, même si au début on ne la voit pas énormément, mais qui est très très important, c'est le pivot, on peut dire, de cette histoire.
Oui.
L'auteur Valérie Valex et les éditions, ce sont les éditions du Palémon. Alors c'est un ouvrage de poche, puis-je dire,
oui.
568 pages, à prix vraiment modeste, 11 euros, c'est vraiment... On ne peut vraiment pas s'en priver. Alors là, vous seriez impardonnable, mes amis lecteurs, auditeurs, si vous ne deveniez pas les lecteurs de cet ouvrage. À très bientôt.
Merci.